Laura Morosini, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de Paris pour présenter le label Église Verte ici à Anglet, à Notre-Dame du Refuge, ce 17 mars. Alors, comment est né ce label Église Verte ?
Le label Église Verte est né d'une d'une convergence de deux événements. Le premier, ça a été l'accueil en France de la COP21, la conférence climat de Paris en 2015. Et le deuxième, ça a été la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François, qui est un peu la première encyclique des encycliques sociales qui traite d'écologie. Et ces deux événements ont suscité beaucoup de mobilisation un peu partout dans la France, et puis toute une dynamique œcuménique au niveau national et local qui s'est poursuivie donc à partir de 2016-2017, d'où l'envie de proposer un outil pour les paroisses et les communautés chrétienne sur l'écologie.
Alors cet outil appelle à une conversion écologique, et vous l'avez souligné tout à l'heure, ce n'est pas des petits changements qui sont attendus, mais c'est vraiment beaucoup de choses dans nos vies.
Alors oui, une conversion écologique, ce que les orthodoxes appellent la métanoïa. La métanoïa, c'est un retournement, on se retourne comme une chaussette, donc complètement. L'objectif est ambitieux, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se décourager et se dire « j'y arriverai pas ». On sait que les enjeux climatiques sont extrêmement graves aujourd'hui, les enjeux de biodiversité aussi. On va vers une extinction de la biodiversité, une dramatisation des questions climatiques avec des centaines de millions de réfugiés à venir. Mais on peut encore changer de cap, on a quelques années pour changer de cap, mais il faut s'y mettre à fond tout de suite. Et à la fois individuellement et en communauté, et c'est cet aspect communautaire qu'entend aider le label Église Verte.
Alors ce label Église Verte, il a été donc mis en place par les églises chrétiennes. Comment ça s'est fait, et est-ce qu'il y a d'autres groupes, par exemple je pense au groupe BC, qui vous ont aidé dans l'élaboration de cette démarche? Comment se fait le lien aussi avec BC au niveau local?
Au niveau local, BC a joué un rôle capital. Je dirais même que dans aucun diocèse, on a vu quelque chose d'aussi bien organisé que la journée d'aujourd'hui. BC a été invité d'abord au lancement du label Église Verte. En septembre, on a choisi de dire on veut commencer par interpeller les communautés qui viennent au lancement de toute la France, par quelqu'un qui n'est pas forcément un croyant, quelqu'un de la société civile, et par les gens qu'on considère en France le plus motivé, le plus actif sur le sujet climatique. Et du coup, on a invité un des fondateurs de BC pour lancer cette journée de lancement du label Église Verte. Et ça a eu un effet, parce que ça a effectivement beaucoup motivé les participants. Et donc, par la suite, quand BC est revenu après la journée parisienne au Pays Basque, ça a porté ses fruits, et deux mois après, commencé l'organisation de cette journée qui a pris 4 ou 5 mois d'organisation pour aboutir à autant de monde et autant de diversité de participants.
Pour une conversion écologique des communautés chrétiennes, c'est le but de ce label Église Verte. Alors qu'est-ce que vous attendez des paroisses, des communautés, des établissements catholiques ?
Le label a été conçu plus spécifiquement pour les paroisses. Il est plus adapté aux paroisses. Il n'empêche que d'autres groupes, que ce soit des établissements scolaires, comme vous dites, des centres spirituels aussi, des maisons diocésaines, silence, à partir du moment où on a des locaux, des participants, des croyants qu'ils fréquentent, on peut se lancer dans le label Église Verte. Et donc, la première étape vraiment essentielle, c'est de se constituer en petit groupe, d'être au moins 2 ou 3, et d'aller voir les autorités de ce petit groupe, parce qu'on ne peut pas faire ça en clandestin, on ne peut pas faire ça tout seul, et on ne peut pas faire ça en cachette. Il faut vraiment mobiliser tout le monde. Mais on peut commencer petit, il suffit d'être 2 ou 3 pour pouvoir démarrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de remplir l'éco-diagnostic qui est sur le site égliseverte.org. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est fait pour ceux qui veulent se lancer, pour les aider à faire un tour d'horizon à la fois de ce qui existe. Souvent, on se rend compte qu'on a déjà fait des choses. Il faut pas se démoraliser. Dès qu'on le remplit, on se dit « Ah, mais non, mais en fait, on n'est pas trop mal. On trie déjà nos déchets. On fait déjà attention à ce qu'on mange ou à comment on se déplace. » Voilà, enfin, on peut remplir cet éco-diagnostic. Ça peut prendre quelques mois. C'est normal. Et après, on écrit au label Église Verte. Il y a tout ce qu'il faut sur le site internet. Et on peut être du coup labellisé et accompagné dans sa démarche.
Et ensuite, c'est prendre des décisions très concrètes, des décisions très pratiques après l'éco-diagnostic, c'est ça ?
C'est ça. En fait, l'éco-diagnostic même, tout le monde nous dit, quand on remplit les 80 questions, ça nous donne presque autant d'idées. On a plein d'idées. Et du coup, les idées sont déjà suscitées par le remplissage de l'éco-diagnostic. Après, il faut faire le tri. Il faut commencer par quelque chose de réaliste, des petits pas, quelque chose où on a des forces. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui est passionné de compost, passionné de jardinage, passionné de regarder les factures et ingénieur en énergie. Voilà, on commence là où on a des forces. Et on se fait un programme de travail progressif. Voilà, commencer par des actions qui peuvent réussir. Et puis après, on pourra toujours aller beaucoup plus loin. Comme dit Saint François, on peut commencer. Il faut commencer par les petites choses. Après, on peut atteindre les grandes. Et la grâce nous sera donnée pour les impossibles.
Laura Morosini, une fois que les décisions seront prises pour chaque paroisse, chaque communauté, ensuite, il y aura la mise en œuvre, bien sûr. Alors, et puis ensuite, il y aura une validation qui s'inspire directement d'exemples que Jésus a pris dans l'Évangile.
Alors oui, on a choisi pour faire des niveaux. En fait, on propose une labellisation, mais qui n'est pas toujours la même. C'est pas on est église verte ou on n'est pas église verte, mais l'idée c'est de progresser, donc de commencer petit, comme dans la Bible, commencer avec la graine de Senvé, voilà, la plus petite des graines, mais qui peut porter un fruit merveilleux. Et donc c'est ça qu'on propose comme première étape. Voilà, dès qu'on est un groupe et qu'on en a parlé aux autorités de la paroisse ou de la communauté, on est graine de CNV. Et donc, on décerne vraiment ce label. Ça peut être l'occasion d'une célébration, d'une réunion. Voilà, c'est pas mal d'en faire une occasion de fête. Parce que quand on avance, il faut se rendre compte qu'on avance aussi. Alors, ensuite, voilà, l'étape au-dessus, peut-être l'année d'après, ou 6 mois après, quand on est passé au niveau supérieur, qu'on a rempli l'éco-diagnostic, qu'on a décidé de 2 actions, on est lys des champs. Voilà, on s'inspire de cette beauté, de cette fleur biblique, le lys des champs. Et ainsi de suite, cèpe de vigne, figuier, et puis enfin cèdre du Liban, majestueux. Alors là, c'est quand on a plus de 75% aux 5 chapitres de l'éco-diagnostic.
Alors Laura Morosini, bien sûr, tout ce que vous venez d'évoquer, on le retrouve sur le site Église Verte.
Oui, égliseverte.org, c'est tout simple. On tape Église Verte dans n'importe quel moteur de recherche, un solidaire ou écologique de préférence, et on tombe sur Église Verte. Et là, on a l'éco-diagnostic en ligne, l'explication sur comment commencer. Et puis, on peut nous contacter si jamais on comprend pas quelque chose ou on a une question ou une suggestion. Voilà, il y a un mail, un numéro de téléphone. Bienvenue à toutes les personnes qui ont envie de nous contacter.
Pour terminer, pourquoi vous êtes-vous engagé, vous, en faveur de ce défi climatique et de ce label Église Verte ? C'est par votre profession. Quelle est un peu la genèse de cet engagement ?
Alors, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui commence à mon enfance au bord de la mer, mais je vais essayer de faire bref. Ce bord de la mer, moi, j'étais sur les bords de la Méditerranée et il est saccagé. Et c'est un bord de la mer où les bateaux, avec du plaisir, ont aussi amené cette plaisance intensive, énormément de méduses. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on peut plus se baigner dans la mer, alors on se baigne dans des piscines et on aggrave ainsi la situation en gaspillant plein d'eau. Et cet amour pour la mer et pour la nature, voilà, et cette conscience aussi d'une injustice planétaire, du fait que 20% des personnes dans le monde possédaient 80% des ressources, elle m'a à la fois révoltée, et l'Évangile m'a donné l'espérance de me dire ça suffit pas d'être révoltée, il faut agir, il faut construire le royaume. Et voilà, et c'est ainsi que par les rencontres, par les études, j'ai décidé de m'engager fortement pour allier, pour que la foi et l'écologie s'alimentent mutuellement pour un monde meilleur.
Merci à Laura Morosini, coordinatrice au niveau national du label Église Verte. Tous les renseignements sur www.égliseverte.org.
Voilà, je vais vous montrer un peu d'images. Ça va changer. Et je vais vous présenter ce qui me passionne depuis 2 ans. Pas parce que ça me passionne, mais parce que j'espère que ça va vous passionner aussi. Et parce que ça répond à deux des choses que vient de dire Tchetch à l'instant. Premièrement, ce mot de métamorphose qu'il a utilisé en reprenant le mot d'Edgar Morin. Nous, on appelle ça souvent métanoïa, le mot grec utilisé par les orthodoxes pour dire conversion, ce mot de la conversion. Voilà, on n'est pas appelé à changer un petit peu, on est appelé à changer pas mal, en fait, nos modes de vie ensemble. Et individuellement et collectivement. Et la deuxième chose de ce label Église verte dont je vais vous parler, c'est le changement d'échelle. C'est vraiment l'objectif de ce label. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, voilà, j'étais étudiante à Bordeaux et je venais d'ailleurs de temps en temps à Bayonne où il y avait une association qui travaillait avec Jacques Ellul, qui avait fait venir à Belloc Bernard Charbonneau pour parler de ces questions-là. Là, je vous parle de 93. Donc voilà, vous étiez historiquement en avance. Quand j'ai décidé que ce serait central dans ma vie, que je m'occuperais plus que de ça, d'aider l'Église, les Églises, les croyants dans cette conversion écologique, en 2011, je suis allée voir la conférence des évêques. Je me suis dit, bah, ça doit être là que ça doit se décider, en tout cas pour les catholiques. Et on m'a dit, ah ma pauvre, on n'est pas du tout là au niveau. Et puis ça se décide pas au niveau national, ça se décide au niveau local. Donc je suis retournée dans ma paroisse et on a créé un petit groupe Église verte. On a fait ça d'ailleurs, ça s'appelait Paroisse verte à l'époque. On a fait ces petits éco-cups et tout un tas d'initiatives, mais au niveau complètement local. Et puis de 2011 à 2015, et ben à chaque fois qu'on cherchait une paroisse qui était active sur l'écologie, et ben ça retombait toujours sur nous. Donc on s'est dit c'est pas possible, là on va pas rester tout seul encore longtemps. Et du coup en 2015, la situation a changé à faveur de plusieurs événements sur lesquels je vais revenir. La situation a changé et donc le label Église verte naît un peu de ça. Alors, je vais vous en parler un peu en trois parties. La première partie, c'est pourquoi, je pense que pour Tchatch a déjà bien répondu sur le pourquoi, donc je vais peut-être essayer de passer plus vite. Ensuite, comment ça s'est mis en place, le label, et puis qu'est-ce que c'est, comment on s'y prend pour rentrer dans ce label, et puis vous y retravaillerez en petit groupe juste après la pause. Alors pourquoi? Vous avez entendu pourquoi au niveau de la crise écologique, de la crise climatique. Moi, je vais répondre à pourquoi un peu plus au niveau de la Bible. On vient de dire, les croyants ont encore plus de raisons de s'engager dans ce combat-là. Et pourtant, c'est pas tout à fait les premiers à être en pointe historiquement, mais on va rattraper le retard. À la base de tout, la Bible, dans Genèse 1, lorsque Dieu crée la terre, les animaux, les humains, il est dit, Dieu vit que cela était bon. Alors ce bon, il est très important parce que c'est une création bonne. Donc on ne peut pas faire partie de ces groupes qui se disent « Oh ben les humains, c'était un mauvais moment à passer pour la Terre. Après tout, on va repartir comme on est venu. Et puis c'est pas très grave finalement. » Non. Dieu a dit que cela était bon. Donc nous, la création aussi, c'est bon, notre présence est bonne. Voilà, même si on saccage beaucoup de choses, il faut juste s'y prendre différemment. Et puis Dieu n'a pas dit que cela est utile, que cela est pratique. La création, ce n'est pas un garde-manger, un frigo dans lequel on va se servir jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est quelque chose qui est bon en soi, donc qui a à être respecté. Et d'où cette différence de mots. On dit création, quelquefois on nous dit mais qu'est-ce que c'est que ce mot création, c'est bizarre. On ne dit pas nature, on dit création dans la Bible. Bien pour rappeler que c'est une création voulue par Dieu. Donc si elle avait été appelée à disparaître, Dieu l'aurait pas voulu. Enfin, voilà. Donc ça dit quelque chose de notre rapport à la terre, de cette imitation de l'intention bonne de Dieu pour la terre et de cet amour pour la terre, donc qui est un reflet de l'amour divin. Donc on voit différemment dès qu'on sort d'ici. Eh ben, on voit les arbres, on voit les animaux, on voit même les moustiques qui nous embêtent de manière différente. Si on se dit que c'est un reflet de l'amour divin. Et d'ailleurs, l'encyclique Laudato Si revient là-dessus très fortement dans tout le deuxième chapitre, l'Évangile de la création, et même par son titre, c'est une encyclique sociale, mais c'est une encyclique sur l'écologie. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle pas Au secours, le bateau va couler. Elle s'appelle Laudato Si, Loué sois-tu Seigneur. Elle reprend les mots de saint François de louange. Donc, commencer dans cette métanoïa, dans cette conversion, le départ, c'est de regarder autrement la création et de louer le Créateur, d'avoir une attitude de gratitude. Et donc de ce voilà, de cette vision de la création différente découle un rôle aussi différent des humains sur Terre. Et là, c'est Genèse 2 qui est voilà, on est là, on est dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ah, des mots importants. Cultiver, c'est quand même un rôle actif, et le garder, c'est un rôle de protecteur. Un petit focus sur deux des choses qui sont soulignées dans l'encyclique de 2015 sur ce rôle des humains sur Terre. C'est le « tout est lié » qui a été cité tout à l'heure. Et aussi ce que disait Tchatch sur la mer de toutes les batailles. Le pape dit ça un peu autrement. Il dit il faut écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et que ces deux enjeux, les enjeux sociaux et les enjeux écologiques, sont intimement liés et que l'un dérègle l'autre. Voilà, c'est deux combats bas à mener de front. Ce qu'on appelle aussi l'écologie intégrale. L'autre point qui me semble important dans nos communautés, quand voilà, vous allez rentrer, on va vous dire oh ben, l'écologie c'est encore un truc en plus, qu'est-ce que tu vas nous casser les pieds, c'est peut-être important pour moi, mais nous on a plein de choses à organiser, on a plein de choses à faire. Et ben non, pour les catholiques en tout cas, vous pouvez noter cette phrase, vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentiel de l'existence vertueuse. Ça n'est pas quelque chose d'optionnel, ni un aspect secondaire de l'expérience chrétienne. Hein, c'est un mot fort. Hein. D'autres papes avaient parlé de l'écologie, mais cette phrase-là, elle empêche qu'on mette le sujet sous la pile. Et c'est des choses qui reviennent aussi dans toute la réflexion sur l'éthique de la responsabilité aussi dans le monde protestant. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est une condition de justice et que cette création, cette nature, nous on en a besoin, mais on n'en a pas, on en a besoin très indirectement. Quand on regarde nos frigos, bah, y a plus de boîtes, de pots, de choses déjà emballées, déjà préparées par l'agroalimentaire. Si on regarde le frigo de quelqu'un qui vit dans un pays du Sud ou qui est plus proche de la nature, il y aura beaucoup plus de produits bruts, de produits de fruits, de légumes, de choses qui sont qui découlent très directement de la nature. Nous, pour se chauffer, bah, on souscrit un abonnement. Alors que si on devait sortir, aller chercher du bois, bah, on aurait un sentiment beaucoup plus net de notre lien avec la nature. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis juste que pour une majorité des êtres humains vivant sur Terre, c'est un rapport très direct et très nécessaire, celui avec les éléments de la nature. Alors, voilà, les constats, on les a déjà bien décrits ce matin. Sécheresse, Là, on voilà, mes premiers chiffres, ils dataient d'il y a un an et demi. J'en étais à 25 millions de déplacés. Ben voilà, maintenant, c'est 40 millions de déplacés par an. Ça augmente même en 2-3 ans, ça augmente de manière exponentielle. Et l'agenda de l'ONU prévoit plusieurs centaines de millions avec des causes qu'on voit. Beaucoup, les causes climatiques sont parmi les causes majeures. Donc là, on voit la famine au Sahel, hein, 5 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire d'urgence. Le typhon Haiyan, en bas à droite, en 2014, 10 000 morts. Une inondation parmi d'autres au Bangladesh, en septembre 2017, 750 morts. Voilà, il y en a tous les jours, malheureusement. Il y en a tous les jours et il n'y en a pas n'importe où sur Terre. Et ça interpelle particulièrement le chrétien, cette question d'injustice, de double injustice, qui fait que ceux qui sont le plus frappés dès aujourd'hui par le désastre climatique sont aussi ceux qui y ont contribué le moins. Ceux qui ne bénéficient pas du confort et qui ont très peu contribué depuis 150 ans, voire qui n'y contribuent toujours presque pas. Donc voilà, là on a la fonte des glaces dans les Andes, les inondations dans le sud-est asiatique, les sécheresses en Afrique. Voilà, c'est une carte assez éloquente. Alors tout ça, on pourrait dire, et beaucoup le disent, je vais changer ma vie. Je vais me comporter autrement, je vais faire mon bilan carbone personnel, et il faut le faire, hein, je vous le recommande. Et je vais vivre autrement, moi, avec mes enfants, avec ma famille proche. Les cousins, ils vont nous considérer comme des dingos, mais nous, on va faire ce qu'il faut. Eh bien, ça ne suffit pas. c'est très très bien, mais ça ne suffit pas. Et pour bouger et changer un système, une orientation, il faut le changer collectivement. C'est pour ça qu'on est tous ensemble et aujourd'hui et qu'on n'a pas juste envoyé un email pour que chacun fasse les choses dans son coin et se regarde une vidéo. Donc c'est une des paroles qui sont reprises là, mais il y a plein d'autres sources qui disent la même chose, hein. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires et non par la simple somme des biens individuels. Et c'est pour ça que le label Église verte, il a été créé pour ça aussi. C'est parce que c'est une proposition à des communautés. Alors justement, donc on a vu le pourquoi. Maintenant, on va voir le comment. Alors comment, je sais que c'est précieux pour vous, l'œcuménisme, et que c'est quelque chose qui se vit beaucoup ici. Et c'est né effectivement de manière œcuménique. De manière œcuménique, chacun avec ses mots, chacun avec sa richesse. En caricaturant un peu, on va dire que les protestants, ben, il y a eu un apport très fort biblique, ça vous étonnera pas, sur le sujet. Un certain pragmatisme aussi, une certaine façon un peu concrète d'approcher les choses. La tradition orthodoxe, je sais pas s'il y a des orthodoxes dans la salle, il y en a ? Bon. Et ben voilà, on va quand même rendre hommage, les orthodoxes, apporter une certaine façon de voir la création, un apport théologique fort, en gardant vivante la pensée des pères de l'Église, qu'on a un peu oublié chez les catholiques depuis Descartes, et chez les protestants aussi. Qui voit beaucoup plus nettement l'œuvre de Dieu dans la création, et puis la grande avance du patriarche Bartholomée qui avait instauré ce temps pour la création, décidé de commencer l'année liturgique le 1er septembre par une journée de la création, une journée de prière pour la création qui a été reprise ensuite au niveau œcuménique. Et puis, bien sûr, la richesse de l'apport de Laudato aussi et du grand nombre d'associations, de congrégations, du monde catholique aussi. Alors, ce travail en commun, le label Église verte n'est pas une première de travail en commun œcuménique. Vous en connaissez, mais spécifiquement sur l'écologie, Ça fait déjà assez longtemps. Là, tout à gauche, on voit quelques images du Jeûne pour le climat dont on a parlé tout à l'heure. En bas, il y a des représentants lors du lancement le 1er juin 2014, donc un an et demi avant la COP. Lors du lancement, on voit Nicolas Hulot, qui n'était pas ministre à l'époque, mais qui nous a bien aidé à faire venir les journalistes, et des représentants de différentes religions lorsqu'avec la Fédération luthérienne, on a lancé ce jeûne pour le climat. Il y a des représentants du réseau Action Climat, donc l'association séculière, mais il y a aussi l'imam Tarek Oubrou de Bordeaux. Il y avait un représentant juif qui a participé, mais qui n'était pas là ce jour-là parce que c'était une fête juive. Des représentants orthodoxes, un évêque. Enfin voilà, ça a été un travail en commun œcuménique et même plus interreligieux. Les bouddhistes aussi se sont fortement associés, les baillis. Enfin voilà, c'était très fort et donc cette habitude de travail interreligieux et plus œcuménique, parce que c'est plus facile dans les mobilisations climat, vous avez une marche pour le climat aussi visible, et puis ce travail sur le livret que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, Habiter autrement la création, qui a été conçu en commun par une vingtaine d'organisations chrétiennes et coordonné par le CCFD. Et puis, plus anciennement, la création du mouvement Chrétien Uni pour la Terre en 2012, qui est né des Assises chrétiennes de l'écologie, auxquelles peut-être certains d'entre vous sont allés en 2011 et 2015 à Saint-Étienne. C'était des grands rassemblements de 2000 personnes sur l'écologie. Donc voilà, c'était un peu... et que qu'Élise a contribué à organiser d'ailleurs en 2011. Et puis les collectifs Vivre Autrement aussi, dont peut-être certains se souviennent, pendant une dizaine d'années, ces collectifs sur Vivre l'été autrement, Vivre Noël autrement, qui étaient des prémices de travail œcuménique, qui étaient déjà œcuméniques depuis 2005 à peu près. Alors, on s'est dit, voilà, la COP est passée, on est le 1er janvier 2016, Laudato Si est passé, la COP est passée, on va se dire au revoir et chacun rentrer chez nous. Ceux qui avaient accueilli les pèlerins climatiques, ceux qui avaient travaillé pour la COP, c'était pas possible. Il fallait continuer et même amplifier le mouvement. Et tous ces groupes, locaux ou nationaux, ont voulu continuer et se sont dit, mais quel est le besoin aujourd'hui ? Et le besoin, ça a semblé d'agir au niveau de chaque communauté et du coup de permettre des initiatives au niveau de chaque communauté. Et pour ça, il fallait un outil. Voilà, on pouvait pas juste dire, bah tiens, allez-y, ce serait bien que vous bougiez, allez-y. Non. Et donc, pour faire un outil bien, il y a un groupe de travail qui s'est mis à étudier les différents outils existants. Donc là, on voit quelques-uns. On est allé voir ce que font les Suisses, qui existent depuis 30 ans, avec Paroisse Verte, là, ce livre qu'on voit à gauche. On est allé voir ce que faisaient les Allemands, le Coq Vert, malgré le nom, c'est allemand, en fait, qui a un système de management écologique pour les communautés paroissiales, qui est hyper précis, avec des chiffres, des indicateurs, un calendrier, voilà. On est allé voir les Canadiens qui ont ce réseau Église Verte, plutôt un réseau d'échange de savoir, de conférenciers, etc. Et puis les Anglais, Eco Church. Et on a essayé de prendre ce qu'il y avait de meilleur dans chacune de ces méthodes. Et en particulier, on s'est beaucoup inspiré d'Eco Church qui se développe déjà auprès de plus de 300 paroisses en Angleterre. Et qui nous a semblé le plus adapté à la mentalité française, à là où sont les communautés en France. Donc un système très, très facile, pas trop chiffré, qui ne demande pas trop d'expertise et qui permet du coup de rentrer dans la démarche facilement. Parce qu'on avait décelé trois besoins. Le premier besoin, la cloche, c'était démarrer. C'était, voilà, c'est pas possible que pendant des années, il y ait une seule paroisse qui fasse des choses. Il faut passer à 10, à 100, à 1000. Il faut changer d'échelle. Et pour ça, il faut pouvoir démarrer, la première chose. Et là, on peut dire que le pari est assez réussi parce qu'on l'a lancé il y a moins de 6 mois, hein, en septembre.
Et on est déjà en contact avec 80, on s'était fixé 100 paroisses en 3 ans, et là il y en a 80 en 6 mois, donc on va revoir nos ambitions. Donc démarrer d'abord. Ensuite, porter du fruit. Voilà, c'est pas tout d'avoir un groupe, il faut que ce qu'il fait ait des conséquences, il faut que ça se voit sur la fracture de la paroisse, il faut que ça se voit dans la vie de la communauté. Et troisièmement, s'inscrire dans la durée, parce que voilà, c'est pas un feu de paille, quelque chose qu'on lancerait et puis on s'arrêterait et puis on laisserait mourir l'année suivante. Donc ce qui a été créé, c'est essentiellement autour d'un site internet. Donc là, vous avez l'image du site internet, le site Église Verte, avec les trois boutons à gauche. Donc le bouton orange, c'est commencer. Voilà, comment démarrer, donc un accent assez fort sur ça.
Que c'est la chose indispensable et c'est souvent le plus difficile. On ne sait pas par quel bout le prendre. Donc il y a plein de conseils, il y a une fiche exprès sur ça. Parce qu'on s'est dit il faut pouvoir démarrer et ça c'est stratégique, sinon on va nulle part. Et il faut pas rester tout seul. Et on est parti du principe que dans chaque communauté, il y a au moins 2-3 personnes à qui ça tient à cœur, qui ont compris le défi climatique, qui ont une sensibilité écologique, qui vivent des choses sans doute chez eux, mais qui les laissent un peu à la porte de leur communauté, qui les amènent pas forcément collectivement. Voilà, on jardine, on fait du vélo, mais bon, il n'y a pas de râtelier devant la paroisse, ben c'est pas grave, on va s'accrocher ailleurs. On jette des tonnes de gobelets quand on fait des rassemblements. Ça nous fait un peu mal, mais comment porter le fait de faire autrement? C'est difficile de changer les habitudes. Donc, de se dire, on reste pas tout seul, on crée un groupe et on a une méthodologie. Donc, la deuxième chose de la méthodologie, après le démarrage, c'est le deuxième bouton, le bouton vert, c'est l'éco-diagnostic. Donc on a mis beaucoup d'énergie sur le fait de concevoir cet éco-diagnostic qui permet de faire l'état des lieux. Pour aller quelque part, il faut commencer par savoir d'où on part, pour faire l'itinéraire, et donc une attention sur ce deuxième outil, qui permet aussi d'aller voir tous les interlocuteurs de la communauté. Et la troisième chose, le troisième outil, c'est le bouton bleu, c'est les ressources, donc où sont en ligne une dizaine de fiches très pratiques. Voilà, sur l'électricité, le chauffage, le compost, tout ce qu'on peut imaginer. Je détaille un tout petit peu l'audit. Donc l'audit, il traite de 5 domaines. Alors on commence par ce qui est le plus spécifique, les célébrations et la catéchèse. Est-ce que on a mis en place par exemple un temps pour la création? Ça peut être la première chose. Est-ce que le sujet est abordé dans les prédications? Est-ce que les laïcs proposent régulièrement des prières universelles par exemple qui traitent ou des intentions de prière qui traitent de ce sujet? Donc il y a une dizaine, 10-15 questions par sujet. Donc là, célébration et catéchèse, il y a une dizaine de questions. Ensuite, le bâtiment, bien sûr, hein, le bâti, très important. Est-ce qu'il est isolé? Est-ce qu'on a pensé, si c'était bien orienté, à éventuellement mettre du solaire? Est-ce qu'on réfléchit à quelle énergie on achète? Est-ce qu'on a essayé d'acheter de l'énergie verte, par exemple? Est-ce qu'on a un suivi des consommations? Combien on consomme? Déjà, c'est pas évident de le savoir. Comment on utilise les bâtiments? Voilà, il y a une dizaine, 10-15 questions très, très claires, à la fois simples, mais très claires, qui font un peu un état des lieux. Troisièmement, le terrain, même si on n'a que quelques mètres carrés, mais bon, ici, je vois qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on en fait de ces mètres carrés? Est-ce qu'on les asperge au glyphosate pour qu'il n'y ait pas trop de mauvaises herbes qui poussent? Est-ce qu'on fait un potager? Est-ce qu'on fait des simples? Est-ce qu'on y puise les fleurs qu'après on va utiliser dans les célébrations? Il y a plein de choses possibles avec différents types de réponses. Quatrième sujet, l'engagement global et local. Est-ce qu'on est inscrit dans la vie de la cité? À un moment donné, une communauté, elle peut aussi
aller voir le maire et dire « Ah, ben, c'est pas possible, les transports en commun, on ne peut pas venir en transport en commun, par exemple, là où on a notre communauté. Donc, tout le monde vient en voiture. » Mais ça, ça dépend de la communauté urbaine ou ça dépend des pouvoirs publics, ce genre de choses. Ça suppose un dialogue. Souvent, les églises aussi appartiennent à la collectivité locale. Du coup, si on veut changer quelque chose dans l'énergie, il faut être en dialogue avec la collectivité locale. Donc voilà, quel engagement local et global, bien sûr. Beaucoup de communautés sont engagées sur les questions des migrants, par exemple. Mais comment est-ce qu'on fait le lien, on l'a vu tout à l'heure, entre les migrants et les causes des migrations Et enfin, le cinquième sujet, c'est les modes de vie. Comment est-ce qu'on se déplace? Quel rapport on a aux déchets? Voilà. Donc, cet éco-diagnostic, il passe en revue 80 questions. Ça permet de se mettre autour d'une table ou alors d'aller voir les uns les autres en charge de ces questions. Et voilà, c'est un premier os à ronger, hein, une première chose pour démarrer. Et souvent, ça donne plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire après. Donc, une fois qu'on a rempli cet éco-diagnostic, on l'envoie à Église Verte. On peut le remplir en ligne ou on peut l'imprimer. Et on se retrouve à un niveau... On a établi à partir de plantes bibliques des niveaux, en fait. Alors, on a souhaité que le premier niveau en bas, je ne sais pas si on voit très bien, c'est graines de sénevé. Voilà, dès qu'on est un groupe constitué, même petit, même deux ou trois, et qu'on en a parlé aux autorités de notre communauté, on est labellisé. On a souhaité labelliser déjà ce niveau-là parce qu'il est très important, indispensable. Donc, on est graine de CNV, donc la plus petite graine, mais on peut porter énormément de fruits. Le deuxième niveau, si on va jusqu'à remplir l'éco-diagnostic, donc on peut imaginer qu'il faut peut-être quelques mois pour passer à ce niveau-là. On est lisse des champs, voilà. On est beau, on a rempli l'éco-diagnostic et on a deux projets pour l'année suivante, deux projets d'action. Ensuite, l'idée, c'est de refaire l'éco-diagnostic chaque année pour voir, pour progresser, en fait. Donc, le niveau suivant, si quand on remplit l'éco-diagnostic, on a deux domaines supérieurs à 50%, on a les résultats, hein, au fur et à mesure qu'on le remplit. On est cep de vigne, ensuite deux domaines à plus de 50 et deux à plus de 25, on est figuier, puis après, voilà, le maximum, les cinq domaines dépassent 75%, qu'on agit un peu dans tous les domaines fortement, on est cèdre du Liban, alors là, c'est le top. Aujourd'hui, il y a pas mal de communautés avec lesquelles on est en relation. La majorité sont en cours, sont graines de CNV. C'est normal, c'était attendu. Mais il y a déjà deux lys et deux figuiers. Voilà. Alors, qu'est-ce que le... Donc, comment commencer l'éco-diagnostic, un autre outil, c'est les fiches pratiques. Ça va? Tout va bien? Celui-là ou celui-là? Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Bon,
non, il y en a au fond.
Non, il faut prendre.
Bon, je dois prêter le micro.
Un autre micro. Il faut faire au micro parce que ça enregistre.
Celui-là?
On parlait plus près.
Plus près.
Merci.
Là, ça va? Si je casse les oreilles, il faut le dire. Hein. Voilà, alors la troisième chose qu'on trouve sur le site, c'est les fiches pratiques. Donc, ces fiches pratiques, là, on a une petite illustration en matière de vélo. Donc, on a des fiches pratiques, des fiches mode d'emploi. Voilà. Alors là, on a un curé à qui sa communauté a offert un vélo électrique parce que c'est une pente, c'est à Ménilmontant, c'est une pente très, très raide.
Et puis il a pris un peu une quinzaine de kilos aussi le curé depuis qu'il est là. Donc il est très très heureux pour ses 50 ans avoir un vélo électrique. Donc il a compris béni, enfin il était très heureux. Et en dessous c'est un pasteur, alors c'est moins visible mais voilà, c'est un pasteur de Romans-sur-Isère qui lui a organisé un pèlerinage à vélo. Donc voilà, c'est pas seulement pour ses déplacements à lui, c'est une proposition à toute la communauté. Alors juste, je vous explique juste un petit peu pour vous encourager à aller voir les fiches pratiques. La façon dont elles sont conçues, c'est que là vous avez deux exemples. Il y a une première partie là en haut à gauche sur les enjeux écologiques et spirituels. Ça commence toujours par ça. Ça commence par une phrase issue de la Bible et pourquoi on devrait faire ça, pourquoi c'est intéressant de le faire, qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi. Ensuite. En dessous, vous voyez « à savoir », donc c'est partie plus d'informations. On en a besoin ou pas, mais par exemple sur le chauffage ou la lumière, ça peut être intéressant de savoir un peu les histoires de watts, de lumens. Voilà, c'est pas un grand cours, mais c'est quand même quelques éléments de connaissance. Et puis, notre Église peut agir, là, en haut à droite. Et là, c'est des propositions d'action classées en trois catégories, de la plus facile à la plus avancée. Et en dessous, tout à fait en bas à droite, c'est « ils l'ont fait ». Et là, il y a deux, trois exemples de communautés qui ont réalisé telle ou telle action. Là, c'est sur les célébrations, par exemple. Voilà, on parle de Saint-Méry, je crois qu'il y a quelqu'un qui ici issu de Saint-Méry à Paris qui a où est organisé une prière pour la création tous les mois. On parle aussi des franciscains qui organisent, ça vous étonnera pas trop, qui ont organisé des temps pour la création au mois de le 4 octobre à la fête de Saint-François. D'ailleurs, je me dis que l'arrivée du tour Alternativa est à peu près à cette date-là. Peut-être qu'il y a des choses à imaginer. Voilà, donc il y a une dizaine de fiches pratiques comme ça dont on espère qu'elles seront utiles. Et puis, il y en aura de plus en plus, on va de plus en plus en alimenter. Et puis, donc, des retours d'expérience. Donc là, c'est ce que vous avez vu dans « Ils l'ont fait ». Mais ça sera développé dans le site au fur et à mesure qu'il y aura des expériences, que vous nous raconterez ce que vous avez mis en place. Donc là, c'est quelques exemples. Une fête de la création, le temple de l'étoile, par exemple, qui a organisé un vestiaire pour les pasteurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est des banques de vêtements usagés. En fait, on récupère des vêtements usagés, ça se fait beaucoup dans les églises. Mais là, la spécificité, c'est que c'est pas seulement pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas les moyens de s'acheter les vêtements neufs. C'est volontaire. On va acheter les vêtements d'occasion, et là, c'est pour les pasteurs en particulier, et eux peuvent choisir de porter des vêtements d'occasion pour limiter la consommation de ressources naturelles. Là, on a Saint-Ferju, la photo, c'est en Angleterre, hein, mais j'avais pas de photo de Saint-Ferju, c'est près de Grenoble, où ils ont installé des panneaux solaires sur l'église et d'autres bâtiments du quartier. Donc c'est intéressant, ça peut faire des projets citoyens en concertation, église et quartier. Voilà. Et enfin, la dernière chose, donc en plus de ces exemples pratiques, c'est le fait de pouvoir se rencontrer. Donc il y a eu cette première rencontre en septembre dernier lors du lancement, mais il va y en avoir d'autres. Alors peut-être pas en 2018, mais en 2018, il y aura sans doute des propositions de formation. Voilà, pour être un peu plus pointu sur tel ou tel sujet. Les personnes qui veulent s'engager peuvent le signaler dans cette journée en tout cas, ou écrire au label Église Verte, et puis il y aura des propositions de formation pour aller plus loin. Voilà, pour conclure, je réinsisterai sur l'importance de se lancer dans une démarche écologique au niveau communautaire. Voilà, que c'est un défi spirituel d'abord, parce que comment avoir une parole crédible, hein, il y a des belles paroles dans... Oui, vous m'entendez plus ?
Oui,
voilà. Voilà, le défi spirituel de la cohérence, hein, entre les paroles et les actes, si ce qu'on fait est différent de ce qu'on prêche, ça va pas. Et puis un défi pratique aussi. Il y a 40 000 églises en France. Voilà, un défi pratique par le nombre. Voilà, il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de patrimoine immobilier des croyants en France. Donc c'est un enjeu aussi. De prendre en compte le défi climatique dans une bonne gestion et pas un gaspillage dans nos consommations d'énergie de notre patrimoine et de nos déplacements. Et enfin, voilà, il y a 40 millions de chrétiens en France et 1,5 milliard dans le monde. Et un changement radical des modes de vie, hein, c'est ce qui est dit dans l'encyclique et ce qui se dit souvent. Cette métanoïa, cette transformation, si on la vit à cette échelle-là, bah ça fait changer les choses aussi, parce que on est plus nombreux qu'on ne pense au niveau mondial, même si on se sent un peu en contraction en France. Le poids et le poids symbolique est très fort, donc ça peut changer la donne climatique mondiale qui a l'air ma partie, mais qui peut encore changer. Merci beaucoup pour votre attention.
Présentation du label Église Verte par Laurent Morosini.